VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Abidjan, 17h à Yaoundé, bienvenue à notre journal présidentiel au Gabon. Moins de 72 heures maintenant avant le scrutin du samedi 27 août. 11 candidats sont en lice, dont deux grands favoris, le président sortant Ali Bongo Ondimba et Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine. Une élection sous haute tension après une campagne marquée surtout par les invectives, accusations et contre-accusations, où chacun se dit convaincu de remporter la victoire. Est-ce que tout est fin prêt pour la tenue du scrutin? Au micro de notre envoyé spécial Idriss Fall à Libreville, la réponse de René Abogela, président de la CENAP, la Commission électorale nationale.
Tout est pratiquement prêt. Il y a des petits réglages pour corriger les petites insuffisances, mais l'essentiel est déjà prêt pour que le scrutin se tienne convenablement samedi prochain.
Les bureaux de vote vont ouvrir à quelle heure et fermer à quelle heure?
Bon, la loi prévoit que le bureau ouvre à 7h et ferme à 18h. Bon, on peut toujours en pratique enregistrer quelques retards, mais nous pensons que nous devrions avoir tous les bureaux ouverts au plus tard à 8h.
Et les opérations de dépouillement des bulletins alors?
Les dépouillements se font immédiatement après la fermeture des bureaux, au niveau des bureaux de vote. Et ensuite, les résultats sont acheminés au niveau des commissions électorales de centralisation. Ça prend un peu plus de temps puisqu'il faut pouvoir centraliser l'ensemble des bureaux d'une circonscription. Ce qui fait que nous n'espérons pas avoir des résultats significatifs avant 48 heures.
Mais ce n'est pas la CENAP qui proclame, c'est le ministère de l'Intérieur.
Les résultats établis, constatés et validés par la commission électorale. Donc, le ministre annonce les résultats, mais confectionnés par la commission électorale.
Vous pensez que ça va se passer quand même dans le calme?
C'est ce que nous souhaitons et nous n'avons aucune raison de croire qu'il y aurait des troubles, en particulier en dépit du fait que la compétition est très âpre.
René Abogela, président de la CENAP, la commission électorale nationale au Gabon. En RCA, la lutte contre l'épidémie de choléra se poursuit. La maladie dont les premiers cas ont été signalés début août a déjà fait 19 décès pour 169 cas recensés. Pour stopper la progression du choléra, des ONG nationales et internationales se mobilisent et plusieurs points de riposte et de réhydratation sont installés le long du fleuve Oubangui, à la frontière entre la RDC et la RCA. Le choléra sévit également en RDC et les agences des Nations Unies n'ont pas caché à Kinshasa leurs préoccupations face à l'extension dans le pays de l'épidémie qui a déjà touché 15 000 personnes et fait plus de 380 morts depuis le début de l'année. Les précisions de Nanit Talani.
La situation est très préoccupante. Le choléra est en train de se propager en RDC, où on a déjà franchi la barre de 15 000 cas et 382 décès depuis le 1er janvier, a déclaré Eugène Kabombi, chargé de communication de l'Organisation mondiale de la santé en RDC. D'après Florence Marshall, une porte-parole onusienne, cette épidémie poursuit son extension non seulement le long du fleuve Congo, mais aussi dans la province du Nord Oubangui, dans le nord-ouest de la RDC, à la frontière avec la République centrafricaine et le long de la rivière Oubangui. Pour Yves Wilmot, un porte-parole de l'UNICEF, il faut un travail de conscientisation des populations de la partie ouest du pays qui ne sont pas habituées à la problématique du choléra. Selon l'OMS, une réunion transfrontalière entre les autorités sanitaires de la RDC et celle de la République centrafricaine sera organisée dans les jours à venir afin de définir les stratégies communes de lutte contre cette épidémie.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
On reste en RDC, poursuite à Beni dans le Nord Kivu du procès des présumés rebelles ougandais des ADF, accusés d'être responsables de l'insécurité et des massacres de civils dans cette région de l'Est du pays. Plus de 150 d'entre eux, qui appartiennent d'ailleurs à différentes nationalités, doivent être entendus par les juges de la cour militaire qui siège depuis samedi à Beni. Le compte-rendu de notre correspondant sur place, Charlie Kasereka.
C'est un procès attendu depuis longtemps dans la région de Beni. Jonathan Piema est avocat de la partie civile. Devant lui, une centaine de dossiers des victimes qui attendent réparation.
Je défends la cause des opprimés. La finalité de la procédure, c'est par un jugement d'abord. Et ensuite, nous voulons aussi que nous puissions être indemnisés comme partie civile parce que nous avions perdu. C'est un procès qui peut prendre beaucoup de temps. Il y a plus de 1000 victimes qui sont là.
La société civile de Beni demande également l'accompagnement disparition de tous les éléments de l'armée congolaise suspectés, mais aussi Djamil Munkulu, le chef des ADF qui se trouve aujourd'hui en Ouganda en prison. Gilbert Kambale coordonne les activités de cette société civile ici à Beni.
Il y a également certains officiers, que ce soit de la MONUSCO ou les hommes des troupes des FARDC, parce que là où on a tué les gens à 200 mètres, à 300 mètres, des positions, de, en tout cas on doit leur poser des questions, ou participer comme renseignant ou comme prévenu, mais également Djamil Munkulu.
Pour les milliers de populations venues pour assister aux audiences, les attentes et opinions divergent concernant ces procès.
À mon avis, il peut dire comme ce sont des aventures. On est en train de voir. Non, ce n'est pas pour apaiser la population, c'est pour remonter encore la colère à la population. On n'a jamais vu qu'un corps d'un Ougandais ici, c'est toujours le militaire congolais, toujours le militaire congolais. Où sont-ils?
Mais as-tu à quoi satisfait?
Jusque-là, nous ne sommes pas satisfaits. On n'a pas encore eu la vérité sur les vrais commanditaires qui envoyaient ces ADF, même 10 ans après. Donc nous allons attendre la fin de ce procès pour savoir la vérité.
Les avocats qui assistent les prévenus ADF se sentent incompris par la population des Béni. Maître David Bouambale dit défendre ces ADF au nom de son métier et de la constitution de la RDC sur les principes et des présomptions de l'innocence de tout individu devant la justice.
Nous sommes constamment conspués, indexés par la population qui ne comprend pas comment nous pouvons jouer ce genre de rôle. Et nous nous rétorquons qu'il s'agit d'un travail que nous accomplissons conformément à la Constitution. Notre objectif n'est pas de les sauver. Nous, comme avocats, nous avons l'obligation des moyens. Nous n'avons pas l'obligation des résultats.
Les procès promettent d'être longs, mais la Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu, siégeant en chambre foraine, promet d'aller jusqu'au bout. Charlie Kasereka, depuis la ville de Beni, pour VOA Afrique.
Conflit en Libye, le premier ministre libyen Fayez al-Sarraj a réclamé une aide militaire à militaire renforcée de la part des États-Unis qui bombardent déjà Sirte pour appuyer les forces libyennes contre le groupe État islamique. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le commandement militaire américain pour l'Afrique, l'AFRICOM. En visite mercredi au quartier général de l'AFRICOM à Stuttgart, dans le sud-ouest de l'Allemagne, M. al-Sarraj a exprimé le souhait du gouvernement libyen d'Union nationale, GNA, de voir les États-Unis contribuer au renforcement des capacités militaires libyennes, notamment via la formation de militaires et le partage d'informations, a souligné l'AFRICOM. L'émissaire américain en Libye, Jonathan Weiner, et le commandant des forces américaines en Afrique, le général Thomas Waldhauser, ont de leur côté réitéré leur soutien aux efforts du GNA pour chasser les djihadistes de l'État islamique de Sirte, dans le centre-nord du pays, avec l'appui depuis le 1er août des frappes aériennes américaines, a ajouté le commandement militaire américain pour l'Afrique. Aidés par les bombardements aériens américains, les forces du GNA ont enregistré d'importants succès à Sirte et ont acculé les djihadistes dans un quartier résidentiel en bord de mer. Afghanistan, au moins 16 personnes tuées lors d'une attaque contre l'université américaine d'Afghanistan à Kaboul qui a duré plus de 10 heures dans la nuit de mercredi à jeudi, pendant laquelle les étudiants ont lancé de poignants appels à l'aide. Les détails avec John Lyndon.
L'attaque contre cet établissement d'élite qui accueille 1700 étudiants n'a pas été revendiquée pour l'heure. Deux de ses professeurs, un Australien et un Américain, avaient déjà été enlevés en début du mois sans que leur rap ne soit revendiqué non plus. Le nombre d'assaillants n'est pas clair, mais la police de Kaboul a indiqué avoir tué deux d'entre eux lors de leur opération de sécurisation du campus à l'aube. L'armée afghane, assistée par des conseillers militaires de la coalition internationale, dirigée par les Américains, a rapidement encerclé le campus. Des centaines d'étudiants ont été évacués pendant la nuit. L'augmentation du nombre d'étudiants et surtout d'étudiantes allant à l'université est saluée comme une réussite depuis la chute en 2001 du régime taliban qui avait interdit l'éducation des femmes. Cette attaque, la première de cette ampleur contre une université d'envergure en Afghanistan et en plein Kaboul, intervient alors que les rebelles talibans sont à l'offensive dans tout le pays contre le gouvernement soutenu par les Occidentaux.
Et pour terminer, en visite en Arabie Saoudite, le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé ce jeudi que la guerre devait s'arrêter au Yémen. Le chef de la diplomatie américaine a annoncé une nouvelle initiative de paix approuvée par les pays du Golfe, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.